Savez-vous lire votre bulletin de salaire ? Aujourd'hui en France, seuls 30% des salariés savent déchiffrer leur bulletin de salaire. Si vous souhaitez élucider ce mystère et être en capacité de vérifier l'exactitude de votre bulletin de paye, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le Café sans filtre avec ton RH, le podcast sans tabou du monde du travail d'aujourd'hui. Je suis Jennifer Montantin, spécialiste RH, coach carrière et enseignante. Pour traiter de ce sujet intrigant, nous serons quatre intervenants. Moi-même, notre invité, Vincent le lave-chef, spécialiste de la paye, Clémence et Michael, élèves du bachelor IPAC de Caen, qui, avec leurs camarades, ont activement participé à la préparation de l'épisode. La meilleure façon de profiter de cette interview est de vous munir, vous aussi, de votre fiche de paye afin de la déchiffrer avec nous. Très bonne écoute. L'interview commence maintenant. Bonjour Vincent et merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter dans un premier temps ?
Eh bien écoute, merci de m'avoir invité. Est-ce que je suis RH ? Je ne suis pas sûr en fait. C'est en tout cas ce que disent mes diplômes, mais mon parcours professionnel a été plutôt varié en fait. J'ai beaucoup travaillé dans des petites structures, dans des petites associations en fait, donc sur des postes de RH, mais alors vraiment qui étaient très... où tout le spectre de la fonction a pu être concerné jusqu'à la paye, ce que ne font pas forcément les RH dans les grosses entreprises en fait. Donc après, j'ai évolué, pris des postes de direction jusqu'à monter ma propre structure en fait en 2017. Et voilà, donc aujourd'hui, je m'occupe d'un volet RH en fait dans la structure, donc de l'édition de jeux de société, mais pas que. En fait, je fais aussi beaucoup d'autres choses que j'ai appris sur le tas. Tu vois, actuellement, j'apprends à faire de la logistique ou à gérer des droits d'auteur. C'est des trucs complètement différents.
Super.
Mais tu vois, le côté RH reste quand même au cœur de ce que je fais, notamment parce qu'avec mes associés, j'étais le seul à avoir une expertise là-dedans. Donc, ils m'ont refilé ça encore.
Désigné d'office.
C'est ça, désigné d'office.
Et le nom de ton entreprise ?
Alors, c'est Studio Agathe. C'est pas que la mienne. Hein. On est plusieurs. On est tout un collectif. Ça s'appelle Studio Agathe. Et donc, on est un collectif, un studio de création sur toute la France, puisqu'on a cette particularité d'être tous en télétravail. Et encore, je te dis sur toute la France, c'est pas vrai. Un peu dans le monde, puisqu'on a quelqu'un qui est en Irlande et quelqu'un d'autre qui est à Chicago. On travaille tous chez nous, 100% en télétravail. Le siège social est à Paris, mais il y a un bureau en fait à Paris. Et puis après, voilà, on s'est organisé comme ça, avant le Covid.
Ah, donc avant-gardiste en plus.
C'est ça. Donc quand le confinement est arrivé, ça n'a pas changé grand-chose pour nous à notre activité. Tous nos outils étaient déjà déployés en fait.
C'est super. En plus, ça me rappelle le tout premier épisode du podcast Café sans filtre avec ton RH où on parle justement des entreprises qui ont mis en place le télétravail en total remote. Alors, ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est la fiche de paye. Et ce qui serait intéressant, c'est déjà de commencer par une petite définition. Est-ce que tu peux nous en donner une, s'il te plaît ?
Alors, la feuille de paye ou la fiche de paye, en fait, c'est quelque chose qui est bien cadré. C'est une obligation pour l'entreprise qui doit le fournir à ses salariés tous les mois ou à la fin d'une période de travail pour les contrats qui dureraient moins d'un mois, en fait. On peut voir ça comme une espèce de facture, en fait. C'est-à-dire que vous allez travailler pour une entreprise et c'est un peu comme si vous établissiez à la fin d'une période de travail la facture de votre travail, en fait. Vous facturiez l'entreprise. Qu'est-ce qu'on va trouver sur une feuille de paye typiquement ? Le nombre d'heures que vous avez travaillé, votre taux horaire, c'est-à-dire ce que l'entreprise dépense par heure où vous êtes venu travailler, les impôts qu'on peut avoir dessus. C'est un peu la même chose comme si l'entreprise achetait des stylos. Tu vois, si l'entreprise achète 1000 stylos à 1 euro, tu vas avoir une facture où ça va être marqué 1000 stylos fois 1 euro et puis tu vas avoir la TVA, tous les impôts dessus. Bien là, c'est un peu la même chose pour chaque salarié. On a une facture du travail accompli. La seule différence étant que ce n'est pas chaque salarié qui fait sa facture, mais que c'est automatisé au sein de l'entreprise dans un service paye en fait, qui établit ses feuilles de paye. Ça permet pour le salarié de savoir s'il lit sa feuille de paye exactement ce qu'il a gagné en allant travailler dans son entreprise chaque mois.
Super. J'adore l'image de facture, c'est assez parlant.
Oui, et en même temps, c'est ça, c'est ouais. Exactement ça en fait. C'est vraiment ce que ça représente. Et alors, ce qui est un peu dommage, c'est que comme la plupart des gens ne lisent pas leur feuille de paye, la plupart des gens ne savent pas non plus très exactement ce qu'ils gagnent en allant travailler.
Absolument. Et ça nous amène à la question suivante que je vais laisser Clémence partager avec nous.
Exactement. Bonjour Vincent, bonjour Jennifer. Merci de nous laisser participer à ce podcast dans le cadre de notre cours de gestion de projet au sein de l'IPAC Bachelor Factory. Donc, je vais avoir une question pour toi, Vincent, concernant les éléments d'une fiche de paie et les erreurs classiques qui peuvent s'y rapporter. Peux-tu nous expliquer les différentes composantes d'une fiche de paie et que retrouve-t-on concrètement sur une fiche de paie ?
Alors, sur une fiche de paie, on va retrouver tous les éléments qui constituent la rémunération, c'est-à-dire tout ce qu'un salarié a pu gagner en venant travailler pendant le mois dans l'entreprise. Alors, juste pour préciser les choses, la feuille de paie, ça correspond à quelque chose qui est bien particulier, c'est-à-dire c'est dans le cadre d'un contrat de travail entre une entreprise et un salarié, en fait. On ne parle pas, par exemple, ici, de ce qui pourrait concerner des stagiaires, donc, reçoivent des gratifications ou des gérants ou des responsables d'entreprise qui n'ont pas de feuille de paie, en fait, qui ne sont pas des salariés puisqu'ils n'ont pas de contrat de travail, en fait. Dans ce cadre, on a un contrat de travail, enfin une relation, une relation de travail entre employeur et salarié. Que va gagner un salarié, en fait, lorsqu'il va venir travailler ? Ça, c'est une question qui est assez importante puisque on a, en tout cas, moi, j'entends beaucoup cette remarque qui dit ce qui est important dans la feuille de paie, c'est le chiffre qui est en bas. Et en fait, ben non, pas du tout. En fait, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça et c'est ce que j'essaye d'expliquer un maximum. En fait. C'est-à-dire, quand on va travailler, on a à la fois un salaire direct et un salaire indirect. Et les deux, pour moi, sont aussi importants l'un que l'autre. Le salaire direct, typiquement, c'est le chiffre qu'il y a en bas de la feuille de paie. C'est ce que, en tant que salarié, vous recevez sur votre compte en banque tous les mois et vous pouvez en faire ce que vous voulez. En fait. Vous êtes libre de le dépenser comme vous le souhaitez. Ça, c'est un salaire direct. On a aussi toute une partie qui est ce qu'on appelle un salaire indirect. Et là, donc, c'est toutes les cotisations sociales que vous allez payer. Ces cotisations sociales, ce ne sont pas des impôts. C'est pour ça que ça ne s'appelle pas des impôts, ce sont des cotisations sociales. C'est-à-dire que vous allez vous ouvrir des droits, vous allez gagner quelque chose en cotisant, en fait, chaque mois. En fait, on pourrait voir cette rémunération indirecte comme une espèce de police d'assurance contre tous les risques de la vie. C'est-à-dire que quoi qu'il puisse vous arriver après dans la vie, vous allez avoir une assurance qui va vous permettre de rebondir. Un peu comme votre assurance voiture, c'est-à-dire vous payez tous les mois une assurance voiture et puis le jour où vous avez un accident, l'assurance prend en charge une partie des réparations, voire toutes les réparations. Dans le cadre d'une rémunération, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que si vous perdez votre emploi, vous avez une assurance chômage, si vous êtes malade, vous avez une assurance maladie, si vous devenez invalide, vous avez une assurance invalidité, vous devenez vieux, vous avez une assurance retraite, etc. etc. Et donc, du coup, cette partie donc, de salaire indirect, un peu comme l'assurance voiture, c'est-à-dire que si vous n'avez jamais d'accident de voiture dans votre vie, eh bien, effectivement, oui, vous aurez payé chaque mois une assurance pour rien. Mais le jour où vous allez avoir un accident, ce que va vous rembourser votre assurance va être bien supérieur à ce que vous aurez cotisé. Et c'est la même chose dans le cadre d'un bulletin de paye, en fait, et d'un salaire. C'est-à-dire que le jour où vous perdez votre emploi, vous avez une indemnisation d'un an et demi, deux ans de chômage, ce sera bien supérieur à ce que vous aurez cotisé. Et cette partie-là, elle me semble assez importante parce que déjà, ça impacte beaucoup les finances de l'entreprise. On entend beaucoup les employeurs dire on est assommé par les charges sociales. Et en même temps, paradoxalement, on entend les salariés dire ce qui est important, c'est ce qui est en bas. Eh bien non, enfin oui, effectivement, les cotisations sociales sont importantes. Ça peut représenter 40-45% du salaire direct. Et en même temps, pour les salariés, ça veut dire quelque chose. Si un jour vous êtes hospitalisé ou si vous devez passer sur un bloc opératoire, je vous conseille sur la facture de regarder combien ça coûte. En vrai, et combien ça vous coûterait si vous n'aviez pas cotisé justement à tout ça. Donc on a en France un système de protection sociale qui est extrêmement bien fichu, en fait, qui protège vraiment bien les gens. Moi, à titre personnel, je m'en suis rendu compte au moment où j'ai quitté le salariat pour fonder ma boîte, donc au moment où je n'ai plus de contrat de paye, de contrat de travail, donc pas de feuille de paye, donc plus de protection sociale, je me suis dit quand même, c'était vraiment bien avant.
Oui, non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, étant indépendante, je vois la différence. Et pour avoir vécu à l'étranger où je payais moi-même mes soins, c'est un vrai budget et pouvoir bénéficier de cette solidarité sociale, en fait, et complètement, c'est un vrai cadeau, mais qui a un prix.
Donc là, je me suis mis à mon compte, si tu veux. Et dès que j'ai pu me resalarier, je me suis resalarié, en fait. C'est-à-dire que pour moi, c'est aussi un poids de me dire que si un jour la boîte se casse la figure, eh bien, je n'ai pas juste mes yeux pour pleurer, si tu veux. Je pourrais bénéficier d'une protection sociale. Donc, voilà. Donc pour moi, c'est assez important. Donc, pour revenir à la question, votre feuille de paie récapitule tout ça, en fait. Oui. La difficulté, après, c'est de savoir la lire.
Pas simple, parce qu'il y a des composantes qu'on connaît tous à peu près donc, qui se situent en bas de la page, mais ce qui se passe au-dessus, c'est plus compliqué.
Merci Vincent pour toutes ces informations très intéressantes. Si on part d'un point de vue plus pratique, Si je prends mon propre bulletin de salaire, quelle composante je vais pouvoir trouver concrètement sur ma fiche de paie?
Bah justement, je vais partager le mien, mon bulletin de salaire. On va essayer de regarder ensemble ce qu'il y a dessus.
Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que la forme du bulletin de paie, elle est visée par la loi. C'est-à-dire que c'est un élément qui est important et c'est un élément qui peut servir d'élément de preuve, en fait, si jamais il y a un conflit entre salarié et employeur, en fait. L'employeur ne peut pas décider tout seul de à quoi ça va ressembler ou de ce qu'il va mettre dessus. Tout ça, c'est bien fixé par la loi, en fait. Il y a des choses qui sont optionnelles, mais il y a des choses qui sont obligatoires. On doit, par exemple, trouver l'identification de la structure qui paye et l'identification du salarié. Par exemple, si je prends ce bulletin de paye, on voit qu'à gauche, il y a l'employeur, celui qui paye, à droite. On sait que ça t'a été payé à toi, Jennifer. Donc voilà, c'est ton bulletin de paye, en fait. Et puis en dessous, on va avoir donc, du coup, tous les éléments, donc là, du coup, chiffrés, qui vont composer le salaire. En général, on lit une feuille de haut en bas. D'accord, c'est-à-dire en haut, vous avez le salaire brut, qui est en général le salaire que vous avez signé dans votre contrat de travail. Vous allez ensuite avoir toutes les cotisations sociales qui vont être calculées, déduites du salaire brut. Et puis votre salaire brut moins toutes les cotisations sociales, c'est le net qui peut être ce qui va être versé sur votre compte en banque. Voilà. Et si vous avez des impôts sur le revenu, c'est encore déduit après tout ça. Mais bon, c'est encore autre chose. On peut voir voilà, sur ce bulletin que c'est divisé en grandes catégories. Tout ce qui est cotisation santé, ça vous indique voilà, tout ce que vous cotisez pour la santé. Pour les accidents du travail, qui sont un régime de santé très particulier. C'est-à-dire en France, quand on a un accident du travail ou une maladie professionnelle, on est beaucoup mieux indemnisé que si c'est juste une maladie, étant donné que c'est lié à son travail. Tout ce qui est cotisation retraite, famille, etc. Donc à chaque fois, c'est par grands items, en fait. Alors effectivement, dedans, on peut avoir des choses un peu cryptiques, CSE, AGS, tout ça. Donc bon, je peux conseiller aux gens, il suffit de faire une simple recherche sur Google et vous allez trouver hein, ce que ça veut dire. Mais ce qui est important, en fait, dedans, c'est que vous allez avoir... alors certaines choses sont, on va dire, des droits qui sont un peu automatiques, que tout le monde connaît, tout le monde sait qu'il a le droit à une retraite, tout le monde sait qu'il a le droit à une assurance chômage. Il y a des choses qui sont un peu moins connu en fait, mais par exemple dont les gens ont droit, mais auxquels dont on ne leur en parle pas nécessairement. Je vais te donner un exemple, qui est aussi un exemple personnel, qui est celui de la cotisation, le FNAL, donc le Fonds National d'Aide au Logement, dit prêt employeur en fait. Si vous cotisez au FNAL, donc ça dépend de la taille de votre entreprise, mais bon, si vous avez cette cotisation, vous avez le droit à ce qu'on appelle un prêt employeur à taux réduit en fait. Si vous achetez un logement, une maison, un appartement, eh bien, cet organisme va pouvoir vous faire un prêt à taux très préférentiel, en fait. Si vous allez voir les banques, moi, quand je suis allé voir les banques pour acheter ma maison, personne ne m'a jamais parlé de ça, en fait. Bah oui, parce que les banques, ce n'est pas du tout leur intérêt qu'on aille prendre un prêt chez quelqu'un d'autre à un moins bon taux d'intérêt. Bien en même sûr. Temps, la banque, ce n'est pas mon conseiller juridique, il n'est pas là non plus pour me donner mes droits, en fait. Donc, du coup, il faut savoir que ça existe, il faut savoir à quoi ça sert, en fait. Et voilà. Et donc, on a comme ça tout un nombre, enfin, un certain nombre de droits, en fait, qui existent. Je ne vais pas voilà, passer ligne par ligne tout ce qu'il y a sur un bulletin de paye. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en faisant des recherches sur Internet, on trouve très facilement à quoi ça correspond et ça peut vous indiquer ce à quoi vous avez cotisé et ce à quoi vous pouvez avoir le droit, en fait. Juste pour terminer, les colonnes que vous avez, base, taux, à déduire, tout ça, c'est les éléments de calcul qui vous permettent, lorsque vous connaissez un peu les formules, de recalculer et de vous assurer que les totaux sont bons, en fait. Sachant que, bon, comme c'est fait sur un logiciel de paye type Excel, de toute façon, les totaux sont bons. En fait,
sinon, ça remonte en anomalie.
C'est ça. Bah, je pense que ça date de l'époque où tu vois, on faisait les bulletins à la main, où à la rigueur, il pouvait y avoir des erreurs, mais il n'y a plus des erreurs de multiplication maintenant sur les bulletins. Mais en tout cas, ça vous permet de contrôler les calculs. Je finirai juste en précisant quelque chose que les gens ne savent pas forcément, mais qui est important, qui est la différence entre les cotisations salariales et les cotisations patronales. La différence entre les deux est une différence comptable, mais pour le salarié, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, peu importe que sa cotisation en retraite soit salariale ou patronale, ça lui débloque exactement les mêmes droits, en fait. Voilà. Donc, effectivement, la feuille de paye va détailler très précisément toutes les cotisations salariales et va être un beaucoup moins détaillée sur les patronales. Mais voilà, mais les patronales ont une importance, en fait. Et il y a quelque chose, une règle qui est voilà, immuable, c'est à partir du moment où on baisse un niveau de cotisation, eh bien la prise en charge par l'assurance après est forcément moins bonne.
Forcément.
C'est toujours le cas. Et c'est ce qui s'est passé hein, lorsque Emmanuel Macron a été élu, il a baissé la cotisation chômage. Donc les gens ont récupéré du pouvoir d'achat. Et un an et demi, deux ans plus tard, il y a eu une réforme de l'assurance chômage. On est moins bien indemnisé qu'avant 2017. Et c'est logique, en fait, il y a moins d'argent qui rentre dans les caisses de l'assurance chômage, donc l'indemnisation est moins bonne. Si vous payez moins cher votre assurance voiture, probablement votre indemnisation sera moins bonne aussi. Alors après, est-ce que c'est bien, pas bien, tout ça, c'est des débats politiques, en fait. Mais il faut bien se dire que voilà, cet argent-là, il sert à quelque chose. Et à partir du moment où on le baisse, il y a forcément une contrepartie. Enfin,
oui.
Cette baisse de rémunération, et c'est pour ça que ça fait partie de la rémunération, elle existe. On baisse votre cotisation, vous aurez une moins bonne indemnisation après. Donc, on a baissé un peu votre rémunération.
Là, ce que je trouve intéressant et le point sur lequel j'aimerais rebondir, c'est qu'on est sur un bulletin de paye qui est de 2023. Quand j'ai démarré ma carrière, il y a... de ça un petit moment, les bulletins de paye ne ressemblaient pas du tout à ça. On est arrivé sur quelque chose de beaucoup plus lisible, mais est-ce que c'est pour autant plus simple à comprendre ?
Je ne sais pas, est-ce que tu as trouvé ça, toi, plus simple à comprendre ?
Pas du tout. Pas du tout, mais voilà. Pour faire l'exercice, je mets... Vous ne voyez pas, auditeur, mais j'ai ressorti un bulletin des années 2010. Et on voit qu'il y a, il y a plus de lignes, en fait.
Alors moi, je suis assez critique avec le bulletin de paye simplifié. C'est-à-dire qu'effectivement, celui de 2010 avait l'air d'être plus compliqué. Mais dessus, tu pouvais refaire tous les calculs et tout revérifier. Tu savais très exactement à quoi tu cotisais, en fait. C'est plus le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que tu as autre contribution due par l'employeur. Qu'est-ce que c'est ?
Bonne question.
Bonne question. Tu n'en as aucune idée. Tu peux aller voir le service compta et leur demander. Je pense qu'ils te donneront la réponse. Mais tu ne sais pas, en fait. C'est-à-dire,
ouais,
c'est une contribution, c'est une cotisation. Donc forcément, ce que je disais, tu as une contrepartie à ça, mais tu ne sais pas ce que c'est, en fait. Donc pour moi, c'est beaucoup moins lisible. J'ai l'impression aussi que pour les gens, ça ne change pas grand-chose. C'est ce que tu disais. Effectivement, ça a l'air d'être moins compliqué, mais de toute façon... personne ne s'est vraiment mis dedans. Tu vois, ce qui pour moi me semble le plus lisible, c'est qu'ils ont catégorisé ça. C'est-à-dire ta santé avec en dessus tout ce qu'il y a. Ce qui aurait pu être fait sur celui d'avant, de toute façon, je pense. Je trouve ça beaucoup plus opaque maintenant, en fait,
oui,
que ça ne l'était avant. Et je ne trouve pas que ça ait beaucoup mieux aidé les gens à savoir exactement ce que ça signifie. C'est-à-dire, tu vois, ta cotisation, CSE par exemple, c'était déjà CSE. Est-ce que tu sais ce que c'est que le CSE ?
Alors, étant dans RH, oui, mais le commun des mortels, je ne suis pas sûre.
Ça fait partie aussi des choses qui sont assez intéressantes. C'est-à-dire que je pense qu'au cours de ta carrière, je serais prêt à mettre ma main au feu que personne ne t'a jamais expliqué ce qu'il y avait dans ton bulletin de paye. C'est-à-dire que tu n'as jamais eu un manager qui a pris 15 minutes pour te dire « Est-ce que tu veux que je t'explique ce qu'il y a dedans ?» Tu vois.
Ah, tu as raison. Voilà. Ça n'est jamais arrivé.
Voilà. Peut-être parce que d'ailleurs, les managers ne savent même pas eux-mêmes ce qu'il y a dedans, si tu veux. Dans les faits, si tu veux, c'est un document très important pour tout le monde. On est tous destinés à avoir des feuilles de paye. On ne voit pas à l'école ce qu'il y a dans une feuille de paye. On ne nous apprend jamais ce qu'il y a dedans. Dans l'entreprise, personne ne prend jamais le temps de nous expliquer. Bon, au final, on voit qu'on a un net payé à la fin. On vérifie sur notre compte en banque, c'est bien la même chose. Tout va bien, en fait. Mais il peut y avoir des erreurs, hein, quand même. Et ça, c'est... J'ai découvert ça aussi, parfois en discutant avec des gens qui pensent que ces gens ont une intelligence artificielle qui fait les bulletins de paye et qu'il n'y a jamais d'erreur. Mais non, ce sont des humains qui le font. Il y a des erreurs sur les bulletins de paye, ça peut arriver.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Mickaël, également étudiant à l'IPAC Bachelor Factory. J'ai été également élève de Monsieur Vincent Lelavechef et j'ai suivi les cours de gestion administrative de la paye. Donc après toutes ces bonnes indications quant au bulletin de salaire et à sa composition, je voulais savoir désormais quelles étaient les erreurs les plus fréquentes sur un bulletin de paye.
Le bulletin de paye, en gros, il va être décomposé en deux parties. Vous allez avoir la partie du haut dans laquelle vous allez avoir le salaire brut, en fait, et tout ce qui compose le salaire brut, et donc la partie du bas avec toutes les cotisations sociales, en fait. Les erreurs les plus fréquentes concernent en général la partie du haut, c'est-à-dire que la partie du bas, les calculs des cotisations sociales, c'est des choses qui sont automatisées dans le logiciel. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir d'erreurs, il peut y en avoir, mais c'est surtout la partie du haut, en fait, dans lesquelles on trouve les erreurs les plus fréquentes. Pourquoi ? Parce que, donc comme je le disais, ce ne sont pas des méga intelligences artificielles qui font les bulletins, ce sont des gestionnaires de paye, donc des humains, qui vont saisir ce qu'on appelle des variables, en fait, tous les mois, c'est-à-dire tous les éléments qui vont constituer la rémunération du salarié. Admettons, le salarié fait, 20 heures supplémentaires dans le mois, eh bien, peut-être qu'il y aura une erreur de saisie. Au lieu de 20, il va taper 2, par exemple. Enfin, ça pourrait arriver. Et le logiciel, en fait, ne va pas détecter ça comme une erreur. Le logiciel ne peut pas savoir que c'est une erreur. C'est, voilà. Donc, c'est variable, en fait, dans la transmission des variables. Il peut y avoir, en fait, des erreurs. Donc, c'est vrai que pour les salariés, il y en a beaucoup qui vont contrôler ça quand même. Savoir si les primes sont bien affectées. Est-ce que voilà, j'ai eu mes bonnes primes, j'ai eu mes bonnes heures supplémentaires. Voilà, tout ça. Toute la partie du haut, en fait, il y a des erreurs en fait, dessus, mais qui sont en général des erreurs détectées. Les salariés peuvent lier souvent la partie du haut et peuvent savoir, en fait. La partie du bas, c'est un peu plus cryptique. Il peut y avoir aussi derrière des erreurs. Et là, pour ça, à moins de s'y connaître, ça peut être beaucoup plus difficile à détecter. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, s'il y a une erreur sur la partie du haut, ça va affecter votre salaire net. En fait, vous attendiez à avoir 20 heures supplémentaires. Il n'y en a que deux qui sont payées. À un moment donné, vous allez voir ce que vous êtes payé sur votre compte en banque. Vous allez vous dire qu'il doit y avoir une erreur.
Oui,
en fait.
C'est assez visible.
Voilà. Il peut y avoir aussi... Mais alors, quand vous avez un problème de paramétrage dans les bases, en fait, vous n'en apercevez pas nécessairement. En fait. Et là, vous pouvez avoir des mauvaises surprises bien après. Je vais te donner deux exemples. Assez concret de ce que j'ai pu voir en erreur de paramétrage. Est-ce que les salariés auraient pu le détecter ? Oui, s'ils savaient lire leur feuille de paye, mais dans les faits, tu vois, ça va juste dire à quel point ça peut les impacter. Le premier, ça a été, alors ça m'a concerné moi, c'est-à-dire dans une entreprise dans laquelle j'ai travaillé quand j'étais étudiant, il y a eu une année où, alors je ne sais pas pourquoi, mais les cotisations en retraite n'ont pas été payées ou déclarées en fait.
Ah.
Donc quand j'ai eu, je sais plus, 35 ans, je crois, tu as ton premier
oui,
moment où tu deviens vieux,
oui,
tu vois.
Oui. Je connais.
Donc tu vois, tu as le récapitulatif de ce que tu as fait. Là, il manque une année en fait de cotisation retraite. Et donc du coup, cette année-là où j'ai cotisé, tu vois, c'est une année en plus, tu vois, si c'est pas rattrapé, que je dois refaire. Donc après, ça veut dire qu'il faut... Alors, c'est rattrapable, tu appelles les organismes, tu as les bulletins de paye qui sont des éléments de preuve, tu peux montrer que tu as bien cotisé.
C'est fastidieux quand même. Hein.
C'est fastidieux. Mais en tout cas, ça peut se faire. L'autre erreur que j'ai eue, par exemple, et là, c'était dans une association où, pour du coup, c'était des gens qui n'étaient pas du tout formés, qui faisaient des bulletins de paye, en fait. C'est que les cotisations chômage étaient calculées sur une base de SMIC, en fait. Donc, tu avais des salariés qui étaient payés plus que le SMIC. Et lorsqu'ils sont arrivés au chômage, du coup, ils ont eu un chômage calculé sur le SMIC parce que, ils avaient beau gagner, alors je ne sais plus, 2-3 000 euros par mois. Eh bien non, ils n'avaient cotisé que sur une base de SMIC. Et là, ça a été la mauvaise surprise pour certains d'entre eux. Comment détecter ça ? Alors d'une part, il faut vérifier que toutes les cotisations apparaissent bien, en fait, sur votre bulletin de paye. Déjà, si vous n'avez pas de cotisation retraite, il y a un problème. Si vous n'avez pas de cotisation chômage, il y a un problème. Enfin, vous avez des grands items comme ça que vous connaissez. Et après, il faut vérifier, si vous voulez, que dans ce qui s'appelle la colonne qui s'appelle base, normalement, ce que vous avez doit correspondre en gros à votre salaire brut.
D'accord.
En gros, on va dire, il y a des exceptions, des cotisations plafonnées par tranche, mais ça doit s'approcher de votre salaire brut. Si vous êtes payé, 2-3 000 euros par mois et que vous voyez dans base qu'il n'y a que des SMIC, il y a un problème.
Très clairement. Donc ça, c'est un premier niveau de vérification.
Voilà, c'est déjà un bon niveau. Ce qu'il faut savoir dans un logiciel de paye, c'est qu'en gros, tout est fait à partir du même modèle. C'est-à-dire que si le premier mois est bon, ce sera bon les mois d'après, en fait, puisque ça va se dupliquer toujours pour le même modèle. Moi, ce que je conseille aux gens, c'est vérifier votre premier bulletin de paye, voir le premier bulletin de paye de l'année, parce qu'il peut y avoir des mises à jour du logiciel. S'il est bon, ce sera bon pour le reste de l'année, en fait. Il n'y a pas de raison qu'une cotisation disparaisse comme ça. Enfin, ce serait, ou alors, c'est pas de bol, si vous voulez. Et après, les variables, donc, c'est-à-dire tout ce qu'il y a en haut dans le bulletin, dans le salaire brut, les primes, les heures sup, tout ça, c'est à contrôler à chaque fois que vous en faites, en fait.
Absolument.
Tout simplement.
Donc, le salarié a vraiment une part de responsabilité dans cette vérification.
Oui. Alors, il faut savoir que le droit favorise quand même le salarié par rapport à l'employeur. L'employeur n'a pas le droit à l'erreur, entre guillemets, donc même si le salarié s'en aperçoit plus tard, il pourra toujours montrer sa feuille de paye pour montrer qu'il a bien cotisé. Mais ceci dit, c'est vrai que l'exemple que je tenais, quand tu arrives au chômage, si tu veux, et que tu t'aperçois que ton indemnisation est bien inférieure à ce que tu avais, quand bien même après il y aurait une régule et qu'on prouverait comme ça qu'il y a eu des erreurs, ça va prendre un certain temps.
Ouais.
Et ça peut quand même te causer un certain nombre de soucis.
De toute façon, c'est des situations qui sont très désagréables, en particulier quand on a eu un trop-perçu.
Oui, aussi.
Parce que là, si on est encore dans l'entreprise, on a directement 10% du salaire qui peut être récupéré jusqu'à ce qu'on atteigne la somme qui a été trop-perçue. Et ce n'est pas forcément très agréable. Et puis, si toutefois, on n'est plus dans l'entreprise, c'est encore plus rude.
Ça peut arriver aussi dans ce sens-là.
Ouais, ouais, ouais. Ouais. Donc, pas simple.
C'est ça. D'où l'intérêt, enfin, si jamais vous vous apercevez que vous prenez votre feuille de paie et vous dites « je pense qu'il y a une erreur, ils m'ont trop versé », c'est pas forcément un bon calcul de ne rien dire, en fait.
Oui, non, mais c'est vrai. Mieux, et, ouais. Et ça, c'est très intéressant que tu le mentionnes, parce que souvent, on se dit ben, « pas vu, pas pris », mais au final, ça nous retombe dessus.
Je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de salariés qui pensaient, alors c'est un calcul assez particulier, mais quand vous prenez des congés, en général, votre salaire, il est un peu supérieur à ce que vous avez d'habitude. Et beaucoup de salariés se disent, il doit y avoir une erreur de calcul. C'est pas une erreur, c'est fait comme ça. En général, on gagne un peu plus quand on est en vacances. Mais voilà. Mais sinon, à part ça, si vraiment vous apercevez que vous avez une erreur, c'est jouer avec le feu que de ne pas le dire, en général.
Absolument.
Alors, merci pour toutes ces bonnes indications. Est-ce que vous auriez par hasard un dernier point d'attention particulier à conseiller à tous nos éditeurs ?
Alors, j'ai un dernier point d'attention, quelque chose qui me semble vraiment important, surtout aujourd'hui. Donc, on est à l'ère de la digitalisation. Les bulletins, donc l'employeur est obligé de transmettre un bulletin de paye à son salarié. Et de plus en plus, ça se fait sur format numérique, en PDF, via un coffre-fort. Ces bulletins de paye, il faut qu'on les garde. Alors, c'est marqué dessus hein, toute sa vie, en fait, puisque ça peut aider à faire valoir des droits, notamment au moment de la retraite, en fait. Et moi, le conseil que j'ai à donner aux gens, c'est qu'il faut imprimer, en fait, ces bulletins. Il ne faut pas les garder en PDF. Je ne suis pas sûr, si vous voulez, que dans 20 ou 30 ans, les PDF seraient encore lisibles facilement. Je reviens 20 ou 30 ans en arrière. Je pense que si j'essayais d'ouvrir aujourd'hui des PDF des années 90, je ne suis pas sûr que ce serait si simple que ça.
Bien vu.
Et pour moi, ça peut, en termes d'archivage, vraiment être important. Et c'est ce que je conseille à tout le monde et à tous les salariés. Une fois par an, vous ouvrez vos bulletins de paye au mois de décembre de l'année, vous imprimez les 12, vous les rangez dans un classeur. Le papier, ça a fait ses preuves. Vous êtes sûr que vous les retrouverez, qu'il n'y aura pas un crash de disque dur ou ce genre de choses, ou un serveur qui prendra feu, je ne sais pas où. Vous êtes sûr de les garder et ces documents vraiment vraiment important, c'est-à-dire que si à un moment donné vous arrivez devant au chômage ou à la retraite et que vous n'avez pas ces documents à présenter pour des raisons x ou y, vous pouvez ça peut vraiment vous porter préjudice. Il faut vraiment penser à le faire. Moi, la compatibilité des logiciels, c'est une question que je me pose beaucoup, quoi. Et si Adobe faisait faillite le mois prochain, qu'est-ce qui se passerait des PDF?
Absolument, très bon conseil, merci Vincent. Tu parlais tout à l'heure de SIRH, de technologie. La question que j'ai à te poser est la suivante. On ne fait plus la paye comme il y a 20 ou 30 ans. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment l'automatisation de la paye en utilisant un SIRH impacte les entreprises et les salariés ?
Alors, j'ai essayé de retrouver quelques données, en fait, puisque l'automate. Alors, moi, j'ai toujours connu les logiciels de paye, je ne suis pas si vieux que ça. Donc, je me suis demandé, mais c'était en plus, comme tu m'avais un peu transmis quelques questions, je me suis demandé à quel moment ça avait pu arriver, tu vois. Donc, j'ai fait quelques recherches. Et donc, voilà, le premier système informatisé, ça date de 1961. Et puis ensuite, il y a eu un développement dans les années 60, 70, 80, en fait, sur des entreprises un peu pionnières. Et c'est vrai qu'avant ça, on faisait les bulletins de paye à la main, donc les gestionnaires de paye, tous les mois, faisaient des bulletins de paye. C'est là où, justement, il pouvait y avoir des erreurs de multiplication ou des erreurs humaines. Le développement des logiciels, alors de ce que j'ai pu retrouver, ça a vraiment commencé au début des années 90, puis ça a pris en force jusqu'aux années, dans cette décennie, où c'est devenu la norme, c'est-à-dire toutes les entreprises, de plus en plus, sont passées sur ces logiciels. Alors, ça n'a pas été une obligation pendant très longtemps. En fait, c'est devenu une obligation depuis la mise en place de la DSN, donc la Déclaration sociale numérique, qui était en 2017,
c'est ça, oui.
De mémoire. Donc la Déclaration sociale numérique, ça veut dire qu'on transmet maintenant automatiquement aux organismes sociaux toutes les données sur les salariés. En fait. Avant ça, on avait ce qu'on appelait la DATSU, la Déclaration annuelle des salaires uniformisée. Donc c'est-à-dire que tous les ans, parce qu'on faisait ça une fois par an, on faisait une grille comme ça, où on donnait tout. Maintenant, tout ça, ça se fait automatiquement. Et du coup, la DSN oblige les entreprises à passer par un logiciel. Avant, je dirais, pour les petites entreprises, il n'y avait rien qui interdisait encore de faire les choses sur Excel, en fait, par exemple. Qu'est-ce que ça a changé pour les entreprises ? Écoute, alors, je n'ai pas connu le avant-après et je n'ai pas réussi à trouver de données fiables. Est-ce qu'il y a moins d'erreurs ? Est-ce qu'il y a plus d'erreurs ? Je pense que c'est un peu comme dans tous les processus d'automatisation, tu as juste moins d'emplois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gestionnaires de paye peuvent gérer juste plus de paye, en fait. Donc, les entreprises vont en embaucher moins et à chaque fois, ils vont en gérer plus. Les erreurs de paye, ça existe toujours. Tu vois, moi, alors je passe par un cabinet comptable pour faire les bulletins de paye. Ils me les envoient en validation tous les mois. Il n'y a pas des erreurs tous les mois, mais il y a des erreurs. Parfois, j'en retrouve. C'est ce que je disais, des variables pas saisies, ce genre de choses. Et alors, je ne sais pas, dans le cabinet qui fait mes bulletins de paye, combien il gère de bulletins. Mais voilà, quand on voit que certains gestionnaires peuvent gérer 300 à 400 bulletins par mois, de toute façon, il y a toujours des erreurs. Donc, je pense qu'il y a juste moins d'emplois, ils font juste plus de paye, tu vois. Je ne sais pas exactement ce que ça a pu changer. Alors, je pense que la facilité, si tu veux, c'est y a des choses qui sont automatisées quand tu as des erreurs. Si par exemple, tu t'aperçois que tu as une erreur sur le calcul de ta cotisation retraite, tu vas corriger ça dans le logiciel et ça va corriger tous tes bulletins en masse. Si tu veux. Là où avant, tu aurais dû reprendre tout un par un et refaire tous les calculs. L'avantage que j'y vois, c'est de l'archivage, puisque c'est ce qu'on disait avec les PDF, ce que je disais avec les PDF tout à l'heure. Donc, moi, j'ai connu, j'ai travaillé dans une entreprise où il y avait un sous-sol entier qui était rempli de bulletins.
J'ai connu ça aussi.
j'ai eu ce cas-là d'ailleurs. C'était une salariée qui arrive en retraite, mais qui avait travaillé un emploi étudiant dans les années 60. Et va-t-en retrouver la feuille de paye de l'été où elle était là. C'était peut-être en 61 ou peut-être en 62. Ouais.
Pas simple.
Voilà, donc en termes d'archivage, évidemment, il y a quand même un vrai avantage. Et puis, c'est pareil, la DSN, ça permet aussi de transmettre les données plus facilement. C'est vrai que la déclaration annuelle des salaires, c'était pas la tâche la plus rock'n'roll du monde, c'est pas le truc le plus passionnant. Voilà, maintenant, ça se fait automatiquement.
J'ai un peu l'impression que ça a rendu le métier de gestionnaire de paye un peu plus sexy. En tout cas, plus demandé sur le marché parce que moi, en termes de recrutement, j'ai énormément de demandes pour cette compétence-là.
En fait, ce qui s'est passé, moi, quand j'ai commencé à travailler, parce que je disais en ouverture, quand j'ai commencé à travailler, je travaillais pour des petites entreprises. Le premier poste que j'ai eu, il y avait 20 salariés, si tu veux. Et dans mes missions, tu vois, de RH, il y avait la paye, si tu veux. Et aujourd'hui, je pense que ce serait plus possible. C'est-à-dire que, comme avec la DSN, on est obligé de passer par un logiciel de paye, que le logiciel de paye, il coûte une blinde, à un moment donné, en dessous d'un certain seuil, il vaut mieux passer par un cabinet comptable, en fait, pour faire les payes. Donc, tu n'embauches plus, tu externalises tout, en fait. Et tu n'as plus cette compétence, malheureusement, je trouve, tu n'as plus cette compétence à l'interne. Mais bon, ça coûterait beaucoup, beaucoup trop cher. Enfin, ce serait complètement... ce ne serait pas intéressant, de toute façon. Et ça veut dire aussi que la paye, je trouve, sort vraiment du spectre des RH. C'est-à-dire de plus en plus des RH qui vont faire un peu toutes les compétences du métier, dont la paye. Ça existe de moins en moins. Tu as des gestionnaires de paye très spécialisés et des RH qui ne font pas de paye. En fait, qui se contentent juste de transmettre les variables et qui ne vont pas savoir expliquer un bulletin de paye.
C'est vrai qu'au niveau de... Ça change le métier, en fait. Ça change le métier.
C'est ça. Ça le scinde en deux, je trouve.
C'est vrai. Le SIRH, on a l'impression que c'est une affaire d'entreprise. Si on se met de l'autre côté, du côté du salarié, est-ce qu'il y a des outils qui permettent de vérifier si la paye est correcte ou pas ? Est-ce qu'il y a un site internet où on pourrait aller regarder si notre bulletin de paye est correct ?
Alors, il n'y a pas d'outils gratuits. Le truc, c'est que les bulletins de paye, ils sont toujours spécifiques, c'est-à-dire que en fonction de votre convention collective, en fonction de l'accord d'entreprise, en fonction des accords de branche potentiellement, les primes, les cotisations, les abattements, tout peut être vraiment différent. Donc, il n'y a pas un... et c'est pour ça d'ailleurs que les logiciels de paye se paramètrent, puisque d'une entreprise à l'autre, on ne va pas forcément calculer les choses de la même manière. Et donc, il n'y a pas de solution automatisée. Vous pourriez scanner votre bulletin de paye, l'envoyer, c'est analysé par une IA qui vous dit si c'est bon ou pas bon, en fait.
Je pense que c'est un bon business, malgré tout.
J'ai regardé, parce que j'ai été voir, donc tu as des sites qui te proposent de vérifier tes bulletins de paye, mais là, c'est des gestionnaires de paye qui te vérifient ça. Ça coûte 35 euros pour le bulletin, et puis ils te vérifient, ils te disent si c'est bon ou pas. Mais c'est un humain qui est derrière, qui regarde ça, puisque effectivement, derrière, pour le faire, il faut que tu ailles chercher l'accord d'entreprise, la convention collective, et que tu vérifies. Après, si vous voulez une solution gratuite, vous avez des tutoriels, des sites sur Internet, vous avez Digifrance, disons qu'en cherchant un peu, il y a moyen de contrôler soi-même sa feuille de paye, en fait. Mais ça implique de chercher, de s'y intéresser. Et puis,
passer un peu de temps dessus.
Des fois, est-ce que ça vaut... Est-ce qu'en rentrant du travail, on a vraiment envie de se replonger dedans ?
Non, je pense que quand on a un gros doute, c'est un bon investissement. Après, autrement, la vie suit son cours.
C'est ça. Bon, il faut savoir que les entreprises n'ont pas intérêt à vous arnaquer. Enfin, les entreprises ont régulièrement des contrôles de l'URSSAF. L'URSSAF vérifie alors surtout la partie du bas avec les cotisations. Donc évidemment, le jeu pour l'entreprise, c'est de ne pas avoir de redressement de l'URSSAF. Donc ce n'est pas non plus dans leur intérêt d'arnaquer les salariés à ce niveau-là. L'URSSAF est assez fort pour détecter les erreurs comme ça. Donc bon,
ce sera au détriment de tout le monde. L'URSSAF a un sacré pouvoir.
Ouais.
Merci Vincent pour toutes ces informations plutôt très intéressantes. En parlant de l'URSSAF, justement, ça fait une très bonne transition avec le sujet dont on va parler actuellement. On va plutôt s'intéresser désormais aux différents types de contrats et aux particularités selon le secteur d'activité. Et pour cela, j'ai une question qui est: quelles sont les différences sur une fiche de paie en fonction des différents types de contrats ?
La feuille de paye a beau avoir l'air compliquée, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle est toujours structurée de la même manière, que vous soyez en CDD, CDI, intérim. De toute façon, ça fonctionne de la même façon. Donc, si vous savez lire votre feuille de paye, vous savez lire potentiellement toutes les feuilles de paye. Ce qui va changer en fait, d'un régime à l'autre, c'est potentiellement les primes, les éléments de rémunération, voire certaines cotisations qui peuvent bénéficier d'abattements ou d'exonérations. En fait. Typiquement, pour un salarié en CDD, à la fin du contrat, il y a une prime de précarité de 10% qui est ajoutée. Je veux dire, ça ne change pas fondamentalement la structure du bulletin de paye. Pour savoir à quelle prime vous avez le droit en fonction de votre contrat de travail, c'est pareil sur Internet. Sur Légifrance, vous avez toutes les conventions collectives. De toute façon, la convention collective, elle doit vous être accessible dans votre entreprise. Donc, vous pouvez aller la consulter. Tout comme l'accord d'entreprise, c'est à vous de vous renseigner, de savoir à quoi vous avez le droit et puis de vérifier sur votre bulletin de paye si c'est bien indiqué. À la fin d'un CDD, on doit vous payer une prime de précarité, on doit vous payer les congés payés que vous n'avez pas pris. Si ce n'est pas le cas, il y a une erreur en fait. Mais ça, il faut que vous le sachiez. Après, sur la feuille de paye en tant que telle, voilà, la structure, encore une fois, reste la même. Donc, normalement, vous devriez être capable de la lire.
Je rebondis juste sur un élément que tu viens de partager et sur lequel j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu parce qu'il est aussi crucial. En fonction des conventions collectives, il y a des minimums de salaires qui doivent être connus par les salariés. Parfois, on se rend compte que certains salariés sont embauchés en dessous du salaire prévu par la convention collective. Et donc, faire ce travail de recherche, être un petit peu curieux sur les aspects convention collective, c'est aussi une responsabilité du salarié.
Alors, il faut savoir qu'avec les logiciels de paye, normalement, l'employeur a accès à ces informations. C'est-à-dire, le logiciel de paye va vous indiquer si le salaire versé est inférieur au SMIC et inférieur au minima de la convention collective. Alors, c'est inférieur au SMIC, ça doit bloquer même, je pense, la validation du bulletin. Je pense que ce n'est pas possible de valider un bulletin inférieur au SMIC. Ce n'est pas forcément le cas pour les minima conventionnels. Mais en tout cas, le gestionnaire de paye le sait. C'est-à-dire, il y a un message d'erreur qui apparaît sur le logiciel, si le logiciel est bien paramétré, encore une fois.
Ouais.
Mais il faut bien vérifier ça. Et alors, la difficulté, c'est dans les conventions collectives. Alors, certaines conventions collectives donnent le montant du minimum directement. Donc, pour le salarié, c'est assez simple à calculer. Des fois, c'est une formule qui est donnée. C'est de plus en plus souvent une formule qui est donnée. C'est-à-dire pour mettre à jour la convention collective, c'est assez compliqué de mettre à jour une convention collective. Il faut réunir les syndicats salariaux, patronaux, enfin, il y a des discussions. Si vous mettez un montant et que vous voulez changer le montant, il faut réunir tout le monde, refaire un avenant, tout ça. Si vous mettez une formule, il vous suffit de modifier la valeur d'une de ces formules et puis on ne change pas la convention collective. Donc de plus en plus, c'est une formule à calculer. Mais tout ça, ça se trouve sur Légifrance, de toute façon.
Légifrance.
Ouais, c'est pas le site le plus ergonomique, je trouve, mais vous pouvez trouver toutes les informations dessus. Voilà. Et encore une fois, l'employeur est censé mettre la convention collective aussi à disposition des salariés.
C'est vrai.
Dans un endroit où ils n'ont pas à la réclamer. C'est-à-dire, elle doit être librement accessible.
Merci Vincent, merci Clémence, merci Mickaël. Le podcast arrive à sa fin. Nous avons appris énormément d'informations. Je pense que vous ne regarderez plus votre bulletin de salaire de la même façon. Pour conclure, j'aimerais qu'on termine sur une touche un petit peu plus personnelle. Et je voudrais que vous me disiez comment vous voyez la paye dans votre futur professionnel.
Alors, merci pour cette petite touche perso au podcast. Alors, moi directement, j'ambitionne de devenir DRH, donc la paye est vraiment un sujet sensible pour tous les DRH, si je puis dire. Donc, concrètement, par la suite, je vais être un peu plus attentif à ce qui se passe sur ma fiche de paye personnellement, ainsi qu'aux autres. Il va falloir que je puisse l'expliquer à tous mes salariés et à tous mes intérimaires si possible. Donc je remercie encore Vincent pour son intervention ainsi que Jennifer pour nous avoir permis de réaliser ce podcast. Merci à vous.
Eh bien moi, je rejoins également Mickaël sur ce qu'il vient de dire. À titre personnel, je vais être beaucoup plus vigilante par rapport à mon propre bulletin de paie. Merci Vincent pour tous ces conseils qui étaient très utiles. Et dans mon avenir professionnel, du coup, comme l'a dit Mickaël, la paie, c'est souvent le sujet qui intéresse principalement les salariés. On ne travaille pas gratuitement. Donc, effectivement, dans le domaine RH et dans des postes à responsabilité comme RRH ou DRH, ce sera toujours un point de vigilance pour moi. Donc, voilà, je vous remercie tous les deux pour ce podcast et nous avoir permis de faire ce projet podcast qui était très intéressant.
Merci à toi, merci à vous. Vincent, le mot de la fin ?
Voilà, dans mon présent professionnel. Bah écoute, moi, la paye, la rémunération, c'est quelque chose qui m'est venu assez tard, en fait, et dans ma pratique professionnelle. Quand j'ai fait mon mémoire de master là, en RH, j'avais mon sujet de mémoire, toi, c'était le management par le sens, tu vois, le sens de ce que tu fais, donc c'était loin la rémunération. Et c'est vrai qu'à travailler et être vraiment en situation professionnelle, je me suis aperçu que la rémunération, le fric, pour le dire, tu vois, vraiment crûment, c'était vraiment quelque chose d'important. La plupart des gens viennent travailler surtout pour l'argent, en fait.
C'est une réalité
et plus le travail est ingrat, plus c'est vrai en fait. Bon. Et c'est vrai que je me suis aperçu que alors l'argent ne fait pas tout, c'est-à-dire qu'on peut très bien payer les gens, mais si on les humilie chaque jour en fait, ben, ils partiront. Mais l'argent est important, c'est-à-dire on peut aussi très bien les traiter, mais si on leur propose plus ailleurs, ils finiront par partir aussi. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel dans la manière de manager les équipes. C'est pas forcément le plus important, mais c'est un prérequis qui existe. Et donc, tout ce que je vous ai expliqué, notamment tout ce qui est cotisation sociale, salaire indirect, moi, c'est quelque chose sur lequel j'essaye d'insister, puisque concrètement, ça coûte extrêmement cher à l'entreprise. Et je trouve ça vraiment dommage que les salariés, comme ils ne s'y intéressent pas, ne se rendent pas compte de tout ce qu'il y a derrière et de tout ce que ça peut leur apporter. Je pense que voilà, passer 10-15 minutes à expliquer un bulletin de paye et ce qu'il y a dessus avec les gens, ça peut apporter des choses, voilà, et permettre d'expliquer et puis aussi de comprendre voilà pourquoi est-ce que ça coûte si cher à l'entreprise. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais dans votre bulletin de paye, vous avez une case quelque part, c'est le coût payé par l'employeur, ça vous donne le coût qui a été versé par l'entreprise pour votre travail, qui est bien supérieur à celui qui est versé sur votre compte en banque. Et donc, du coup, voilà, la rémunération directe, c'est super important. Et je pense que c'est bien aussi à expliquer à tout le monde.
Je te rejoins là-dessus et je te remercie de terminer sur cette touche qui rassemble, en fait. Parce que l'argent, le salaire, c'est important, mais aussi comprendre ce qui se passe derrière, ça l'est aussi. Donc, merci beaucoup à vous trois et rendez-vous sur le Café sans filtre avec ton RH pour encore plein d'épisodes autour de sujets RH, de la vie du collaborateur et de l'entreprise. À bientôt.
Cet épisode vous a aidé. Vous pouvez contribuer au rayonnement du podcast en le partageant. Je vous mets les articles que j'ai trouvés particulièrement intéressants pour préparer cet épisode en barre d'infos, ainsi que le lien vers mon agenda pour parler de votre carrière. À très vite pour un prochain épisode du Café sans filtre avec ton RH.